Ça attaque direct sur les questions intéressantes. Est-ce que tu vas trouver une alternative à X dans tes vidéos, car ça manque vraiment? Alors en fait, il y a deux choix et c'est en cours de discussion avec l'équipe et tout ça. Parce que depuis quelques temps, désormais, vous avez vu, même du côté de Instagram, il y a des shorts sur lesquels vous avez d'autres personnes qui interviennent. Il n'y a plus que ma voix. Alors bien entendu, la quotidienne, ça reste moi. Mais on est désormais un petit peu plus que ce que j'étais à l'époque quand j'étais tout seul en termes de création de contenu. Donc c'est vrai que X, on n'est pas du tout d'accord dans la team. Il y a un bon 80-90% qui pensent que c'est une erreur de quitter tout court X. Et moi, d'un point de vue perso, ce n'est pas un réseau qui me convient, mais c'est vrai que, comme on en a discuté entre nous, je pourrais tout à fait le laisser en gestion, c'est-à-dire de la même façon qu'aujourd'hui, on est en autonome sur Instagram, il y a un voire deux créateurs de contenu derrière Instagram, on peut tout à fait laisser le X en effet en community management. Donc là aujourd'hui, on a désactivé le compte, on a un mois pour faire le point avant que le compte soit supprimé officiellement par X. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on repart sur un compte à zéro avec le nouveau nom FinTales, tout en ayant une liberté de parole qui sera plus importante du fait de ne pas avoir 300 000 abonnés. On pourra peut-être un petit peu plus s'exprimer sur ce qu'on appelle des cols dans le milieu, c'est-à-dire dire, bon là, je trouve cette position intéressante, peut-être cet altcoin un peu plus intéressant, chose qu'on ne faisait quasiment plus aujourd'hui avec 300 000 abonnés, pour la simple et bonne raison que voilà, il y a un impact derrière qui est beaucoup trop important si jamais ça se passe pas bien, et c'est quelque chose qui nous a été reproché par le passé et qu'on ne compte pas refaire les mêmes erreurs à présent, tout simplement. Donc, je sais aussi qu'il y a une bonne partie de la communauté qui est demandeuse de nouveaux projets, de nouveautés tout court. Hein, finalement, quand on dit nouveaux projets, c'est juste qu'au quotidien, même si on vient à faire qu'une émission par semaine, on ne peut pas parler que de Bitcoin. Et c'est pour ça aussi que petit à petit, on s'est élargi au travers des ETF, au travers des actions, des métaux précieux. D'ailleurs, on a été recontacté là pour un partenariat long terme. Il faut que je leur réponde. J'y pense en même temps que je vous le dis pour Gold Avenue, donc pour les métaux précieux. Ça serait très cool de pouvoir avoir un partenaire comme ça et de pouvoir vous faire bénéficier de codes de réduction au long terme pour ceux qui veulent se mettre des petites poches comme ça en gold ou autre, hein, puisqu'on dit souvent l'or, mais il n'y a pas que l'or. Donc, pour répondre à ta question, si jamais on ne revient pas sur X, bien entendu qu'on trouvera des alternatives, c'est-à-dire grosso merdo, de passer en revue les news les plus impactantes du côté de Cryptost, du côté de Journal du Coin. Pourquoi pas essayer d'extraire X, les tweets les plus importants de CryptoGoku ou toutes les personnes vraiment qui ont des choses intéressantes à dire. Et on en fera un résumé, ça continuera dans tous les cas. Donc aujourd'hui, le sort de X n'est pas complètement scellé, mais c'est vrai que dans tous les cas, même si l'on y revient, ça sera très certainement sous un community management, parce que personnellement, ce n'est pas un réseau qui me correspond, tout simplement. Voilà. Et pour répondre à Optimus, non, on n'a pas rechangé de nom, c'est juste qu'on n'y est plus tout court pour l'instant. Donc voilà. Je voulais savoir déjà comment vous vous sentez dans le chat. Est-ce que vous faites partie de ceux qui avaient reconstitué un petit peu le bac de stablecoin? Là, c'est un live un peu sans prétention ce soir. Je ne pense pas qu'on sera grand monde. Un mercredi en début de soirée, pour ceux qui sont en Europe, il y aura le replay qui sera activé. Je ne pense pas qu'on mettra la vidéo sur YouTube. On ne va pas dire de grandes choses qui seront plus intéressantes que ce qu'on dit dans la quotidienne ou d'autres vidéos. Mais voilà, je voulais échanger directement avec vous pour avoir un peu votre ressenti sur le moment, pour savoir si vous pensez aussi qu'on arrive au terme de ce cycle de 4 ans dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que le cycle de 4 ans est toujours là et on a trouvé le top de ce marché autour de mi-octobre, ou bien est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient que le cycle désormais n'est plus et qu'on aura peut-être 2026 qui nous amènerait vers de nouveaux points hauts. Personnellement, vous connaissez mon avis, mais voilà, je trouve ça assez intéressant. On a du 80% stable, et bien c'est pas mal, hein. Peut-être même beaucoup, mais au moins, tu es safe à court terme. Perso, je suis encore un peu en dessous de ça, sachant que je ne peux pas vraiment parler de stable parce que je m'expose plutôt au travers des ETF désormais pour les cryptos. Mais j'avais réussi à reconstituer une poche de cash assez importante. Mais quand on est passé de 125 à 80 là, sur BTC, la poche de cash, elle n'est jamais assez importante. Dans ces moments-là, ça pique les fesses, hein, vraiment. Des nouvelles du projet DeFi de Manu, eh bien, tout simplement, ça n'a pas fonctionné. En fait, ils ont manqué de cash au moment du lancement. Ils avaient déjà épuisé toutes leurs ressources. Donc, en gros, il a fait vraiment toutes les tournées possibles et inimaginables. On l'a vu de l'intérieur pour essayer de gratter un petit peu d'argent à une période où il n'y avait pas forcément beaucoup de flux qui étaient disponibles et où l'argent coûtait très cher. Et malheureusement, au moment où il a essayé de release, eh bien, il n'y avait plus aucun argent dans la caisse, hein, tout simplement. Alors, je précise quand même, ils ne se sont pas payés, les investisseurs non plus, et ça a été un peu statu quo au moment du lancement par manque de financement, malheureusement. Et j'espère, bien entendu, qu'une fois, il pourra venir nous en parler et qu'il trouvera quelque chose pour rebondir. En tout cas, on lui souhaite, c'est aussi des problèmes des fois où, quand bien même l'idée est sympa sur le papier, si on n'a pas les bons contacts et les VC derrière qui font des tours de financement, etc., malheureusement, derrière, on est un peu, comme on dit vulgairement, avec sa bite et son couteau. On a Quasidark qui nous dit qu'il pense que le cycle de 4 ans est toujours valable et qu'on a fait le top. Eh bien, perso, je suis aussi de cette team et comme je le dis souvent, que ce soit sur le Discord ou dans les émissions YouTube, j'espère me tromper pour nous tous, puisque dans tous les cas, je conserverai une allocation long terme en BTC, même si, pour l'instant, ce n'est pas du self-custody, mais ma ligne BTC qui est bien dans le vert déjà au niveau de ce que j'ai du côté ETF, eh bien, je pense que là, aujourd'hui, au vu de la répartition, je peux me permettre de revoir un Bitcoin à 50 dans ces eaux-là, comme on en a discuté pas mal de fois, qui correspondrait à la moyenne mobile 200 en hebdo. Je vais repasser en hebdo, puisque là, on est en mensuel. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même en mensuel, l'image de fond, elle nous ramène grosso merdo à la 50 mois, autour du 0,618 de Fibo, qui aujourd'hui est à 56 000 $. Donc, peu importe comment on regarde 50 mois ou 200 semaines, on atterrit toujours plus ou moins au même endroit. Et donc, aujourd'hui, ce que je garde pour du long terme en BTC, je pense que je n'ai pas envie de le vendre là à 80 si je vise 50. C'est vrai que ça fait chier parce que à la fin, dans tous les cas, peu importe comment on prend les choses, ce qu'on n'a pas vendu à 125, si on le revoit à 50, voire en dessous, on aura perdu 60%. Donc, c'est une volatilité qui fait très, très mal. Et c'est pour ça que ceux qui en ont la possibilité, comme d'habitude, j'essaie de ne pas faire de généralité, puisque je ne suis pas derrière chaque écran, derrière chaque personne. Et c'est très difficile de faire une généralité en investissement. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui s'en foutent que ça baisse. Et quand bien même ça baisse, ils sont contents pour pouvoir recharger à bon compte. Et il y a d'autres personnes qui jouent un peu plus cet aspect-là de rentrer, sortir tous les 2 ans, tous les 4 ans. Et à ce compte-là, je pense qu'en effet, ce cycle quand même qui nous a offert 1x8, hein, il ne faut pas l'oublier, on a fait 700% sur Bitcoin. Voilà, c'était quand même, pour ceux qui sont rentrés à 15-20 000, l'opportunité d'alléger dans les proportions que vous souhaitiez entre 80, 100 000, 125 000. Il y a même des gens aujourd'hui ici qui très certainement vont essayer de sortir à bon compte dès lors qu'on va revenir visiter quelque part entre les 90, 92 sur lesquels nous sommes déjà et les 100 000, 100 et quelques mille. Donc ça, pour moi, c'est ce qu'on est en train de faire ici et qui risque de se matérialiser courant décembre. Là aussi, c'est plutôt, on va dire, de l'analyse technique tout à fait basique. C'est un peu le rebond du chat mort. La seule invalidation qu'on aura que ça n'est pas un début de bear market, ça serait de repasser dans un premier temps au-dessus des 102 et surtout de reprendre la zone de cassure tout en haut, ici autour de 108. Donc beaucoup, beaucoup de chemin, toutes les moyennes mobiles au-dessus du pif. Voilà, c'est quand même compliqué. On a perdu le RSI médian autour de 44 en hebdo. À chaque fois qu'on a fait ça par le passé, c'est devenu assez compliqué. Bon, on avait eu la petite incartade ici en janvier 2022, mais on était déjà en bear market. Donc, basiquement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Au niveau de Ishimoku, bien qu'on ne le passe jamais sur la chaîne, on est rentré dans le nuage. on a tagué le bas du nuage et pareil, ça risque de faire le ping-pong entre les deux bornes du nuage. Et d'un point de vue on-chain, pour ceux qui suivent un peu du côté de la chaîne YouTube, vu que tous les 15 jours, on fait avec Adrien, on-chain Sapiens, on est de nouveau dans ces eaux-là. Entre deux bornes, basiquement, le true min price autour de 82-83 000 et la borne suivante qui est plutôt autour de 100 000. Donc pareil, c'est exactement ce que ça avait fait en 2022. Peu importe où l'on regarde, qu'on regarde l'analyse technique ou qu'on regarde l'analyse on-chain, j'allais dire le système Ishimoku, mais oui aussi, mais Ishimoku fait partie de l'analyse technique. N'hésitez pas, si vous avez des questions en particulier, que ça soit sur la chaîne, que ça soit sur le marché, sur les marchés d'ailleurs, parce qu'on parle de crypto, mais pas que. Voilà, c'est une petite émission chill, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai une date pour la fonction d'épargne de AAV App ? Non, pas du tout. J'ai demandé à Marc de venir nous en parler et aussi de AAVV4, pour l'instant il n'a pas l'air d'être pressé, mais bien entendu dès qu'il le voudra on vous en parlera, peut-être à la sortie justement de AAVV4. Top de marché première semaine d'octobre, il faut anticiper deux cas de figure, fixer des targets baissières si le cycle de 4 ans, mais pour également se retrouver hors cycle et être total découverte des événements imprévus drivés par les institutions. Oui, c'est de l'ordre du possible. Après, comme d'habitude, j'essaie vraiment ces 2-3 dernières années, et c'est ce que je vous restitue sur la chaîne, d'avoir une analyse qui est data-drivée et statistique-drivée pour être au plus proche de la réalité de ce qu'on a connu et de ce que le marché pourrait nous donner en termes de probabilité quelque part. Donc, c'est vrai qu'on manque d'itérations. On se base sur un cycle, deux cycles, trois cycles. Voilà, ce n'est pas complètement fou. Hein. Mais vu qu'on a ce métronome avec le halving tous les 4 ans et que c'est la fameuse petite roue là de, je ne sais plus comment il s'appelle sur Twitter justement, celui qui fait ses rational routes, voilà. Même en comptant les blocs, on a topé au même endroit, à quelques blocs près, j'ai envie de dire, des deux cycles précédents. Donc, tant que ça se réalise, c'est un petit peu dommage d'être contrariant et de la jouer à la Michael Burry et de se dire « Ok, je lance The Big Short, mais ça va rebondir derrière. » Enfin voilà, ça serait un petit peu bizarre. Donc pour l'instant, je préfère me fier aux statistiques et les statistiques, elles disent que potentiellement, oui, on aurait top sur mi-octobre. En tout cas, pour l'instant. Les news de Manu, on en a eu tout à l'heure sur le Discord, sur un chat privé, ça va bien. Je pense qu'il repassera la tête un de ces quatre, et comme je l'avais dit aussi précédemment, parce que c'est vrai que des fois, vous me demandez sur YouTube, j'en parle une fois sur YouTube, mais il y a des gens qui ne regardent pas toutes les émissions, donc après, il y en a d'autres, plusieurs émissions plus tard, qui demandent « alors Manu, alors Marc, etc. » Donc, tout le monde fait ses petites affaires de son côté. Et voilà, après, il y a des chemins de vie aussi qui font que des vies familiales, enfin, pas mal de choses, comme la vie de Monsieur Tout-le-Monde. N'oubliez pas également que CM, ça fera 7 ans début 2026. Donc, forcément, au bout d'un moment, quand on est dans la crypto depuis aussi longtemps, c'est comme si on avait fait 20-30 ans sur les marchés traditionnels et les gens, ils ont besoin et envie de voir autre chose aussi. Plus le live du lundi, ben, tout simplement parce qu'on n'en ressentait plus le besoin. Après, c'est un rendez-vous qu'on appréciait malgré tout puisque ça permet d'être proche justement de la communauté et d'échanger avec vous en direct. Donc, je n'ai pas fermé la possibilité de reprendre un live récurrent. Est-ce qu'on le fera tous les lundis? Je ne sais pas. Est-ce que même on garde le lundi tout court? Voilà, il refaudrait faire des sondages quant à l'heure, puisqu'on avait aussi avancé l'heure à l'époque 20h au lieu de 21h, et pareil, ça ne convenait pas à tout le monde. Donc, il faudrait tout simplement qu'on ressonde. Mais nous, fondamentalement, il n'y a pas de problème en soi de faire un live le lundi, mais peut-être pas toutes les semaines. Après, les taux de rémunération des stablecoins, tant que tu ne boucles pas, que tu es vraiment sur le taux basique, en effet, en général, ça reste assez bas. Hein. Mais bon, on se plaint d'avoir un taux bas à 3,5, comme tu disais, du côté de AAV en basique, mais regardez le taux du livret A. Donc, comme d'habitude, on se plaint d'avoir 3,5 et de plus avoir 6 ou 8 ou 10. Il y a la possibilité d'aller plus loin en DeFi, même d'aller à 10, 15, 20, etc., 30, en prenant des risques assez inconsidérés parfois. Mais pour le basique, c'est pas si mal. J'ai envie de te dire 3,5. Des fois, c'est un petit peu plus, des fois, c'est un petit peu moins. Mais ça démontre aussi que bah, pour l'instant, on est bel et bien en bear market. Malheureusement, tant qu'on n'a pas des gros pics d'emprunt et donc les taux qui montent du côté des stablecoins sur AAV, c'est un signal de plus que le marché n'est pas tendu à l'achat, en tout cas.
Oui, hebdo ou on va dire bimensuel, une fois tous les 15 jours.
Comment on fait avec Onchain Sapiens, pour être tout à fait honnête, c'est le top, je pense. Parce que 15 jours, on ne voit pas ça passer quand on travaille tous les jours. Franchement, à chaque fois que lui revient vers moi, parce que la plupart du temps, c'est ça, moi, je suis tellement le nez dans le guidon en général que je ne vois même pas passer les jours, les semaines. Et tous les 15 jours, il me dit « bon, bah, voilà, c'est notre moment ». Et à chaque fois, je suis choqué de me dire « ah ouais, il y a déjà 15 jours qui sont passés ». Donc, je pense qu'un rythme… une fois tous les 15 jours, ça peut être pas mal.
Ouais, c'est pas mal ça, les bons plans yield, ça se partage pas, c'est comme les bons coins champignons.
C'est un peu ça, ouais, il y a du vrai là-dedans. Ouais. Également, tant que j'y pense, puisque j'ai les deux ici sous les yeux, est-ce que vous avez l'impression depuis récemment, ou c'est une vue de l'esprit de mon côté, que les alts sont en train de moins baisser par rapport à ce qu'ils nous ont fait précédemment ? Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression, malgré tout, bon, on a des alts, notamment Ether, qui ne nous ont même pas fait un nouvel ATH ou tout juste ultra timide au point près. Donc, on ne va pas se réjouir de ce qui s'est déroulé sur ce cycle sur les alts. Mais le fait qu'il n'ait pas été fort pendant, notamment cette année 2025, est-ce que petit à petit, ce n'est pas en train de se setup justement pour permettre eh bien, quand Bitcoin repartira vers le haut, d'emporter d'une traite le reste du marché avec lui et qu'on n'aurait plus ce ruissellement comme on l'a eu par le passé, mais qu'on aurait tout qui viendra pousser en simultané à partir du moment où les flux viendront se débloquer. Et pour l'instant, les flux, ils sont là. Ils sont bloqués sur cette stablecoin dominance à 0,09 quand on prend USDC, USDT face au total. Voilà, on est sur la moyenne mobile 200. On veut voir ce truc chuter très lourdement jusqu'ici 0,07 voire 0,06, 0,05 pour nous permettre d'avoir des flux qui reviennent et le Bitcoin qui reparte. Pour l'instant, malheureusement, là aussi, une fois de plus, hein, on est un peu dans la configuration qu'on avait eue ici fin 2021, début 2022, avec une augmentation assez substantielle de ce pool de stablecoin. Et d'ailleurs, ces temps-ci, on a vu beaucoup, beaucoup, notamment de Tether à coût de milliards qui était imprimé quasi quotidiennement. Et d'ailleurs, en parlant des altcoins au passage, est-ce que vous avez réussi à réduire votre exposition en altcoin ou est-ce que pour ceux qui étaient que sur les alts, vous avez conservé vos 20, 30, 50 lignes comme certains en avaient ? Ou est-ce que toute cette période justement et tout ce qu'on a vécu 2024-2025 vous a permis d'y voir plus clair et de faire une curation même si ça ne fait pas plaisir ?
Ouais, ça fait un changement drastique, 50-50 par rapport à 90-10.
Dès que BTC est passé sous 100K, j'ai dérisqué très récemment pour vendre la majorité des alts que j'avais depuis 2 ans.
Ouais, ça paraît être un choix qui est logique hein, à court terme de se dérisquer un maximum. C'est vrai que ça reste un risque aussi de se dérisquer en soi et de se dire bah, « je vends le bottom », entre guillemets, comme certains disent. Mais d'un autre côté, les alts, ça a tellement été poussif, ça a été une atrocité. Donc peut-être que entre 2026 et 2030, sur les 4 années suivantes, une fois passé cette période de bear, entre guillemets, qu'on aura du mieux du côté des alts, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'on aura une détente de la liquidité ? Est-ce que les taux de la Fed vont continuer de chuter ? Est-ce qu'un jour, si les États-Unis commencent à sentir que la récession pointe le bout de son nez, ils se remettront à imprimer de l'argent ? On sait que sous Trump, c'est un peu tout est possible, donc, et rien n'est garanti. Donc pour l'instant, voilà, c'est un peu ce statu quo où malgré tout, quand on regarde comme ça, hein, d'un point de vue de l'analyse technique, j'ai pas envie de faire le grand Nostradamus ou le mec super doué en analyse technique, mais on est malgré tout, si on regarde au long terme, que ça soit en hebdo ou en mensuel, dans un énorme triangle rectangle ascendant hein, pour le coup. Donc c'est pas super réjouissant de pas avoir fait un nouvel ATH et de s'en être extrait sur ce cycle au niveau du crypto total 2 des altcoins. Et il y a toujours la possibilité qu'on déroule très fortement à la baisse et que ça soit vraiment pas beau en fin de bear market si ça se passe en 2026. Tout comme peut-être que le fait que les alts n'aient pas performé, eh bien, on aura un rattrapage. Et en fait, là où ça me met le doute de mon côté, c'est ça, c'est le Russell américain qui est en train de coller de nouveau malgré la mèche complètement folle qu'on a eue ici en novembre, de repasser la tête au-dessus de cette zone donc d'ATH. Donc pourquoi pas, hein, le Russell, ça représente exactement nos shitcoins, nos altcoins du marché crypto, mais au niveau du marché américain. C'est un truc à surveiller, je pense, pour la suite, qui peut-être peut nous donner un tout petit peu de baume au cœur pour le marché crypto. 10% du folio dans plein de lignes, je suis bien plus efficace sur les 5 lignes qui font les 90 restants, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand j'ai pris le temps de regarder un petit peu tout ce qui avait atteint des sommes assez importantes, notamment en décembre 2024, mais pas que, parce que déjà autour de début 2024, souvenez-vous, on avait eu un semblant de mini alt season. Et ensuite, décembre 2024, quand Bitcoin a franchi les 100K, on a eu quelque part en même temps un peu une alt season, même si ce n'était pas ce qu'on pouvait s'en imaginer tel qu'on l'avait connu pour certains en 2017-2018, pour d'autres en 2020-2021. Mais il y a quand même eu deux moments, deux temps forts en 2024 pour les alts. Et quand je regarde aujourd'hui certaines lignes qui faisaient du 5-6 chiffres et qui aujourd'hui sont revenues à 4, quand tu as une position qui était à 100K et que tu sors à entre 5 et 10K, je peux te dire que tu le sens passer. Donc, effectivement, c'est problématique. Ouais. C'est, les alts, c'est vraiment quand tout pump et tout, on se croit au plus haut sur la vague, c'est le roi du pétrole, le loup de Wall Street et tout ce que vous voulez. Mais quand le marché se retourne et tout ce qu'on n'a pas vendu justement en cours de route quand on avait des gros gains sur la table, le marché crypto a ça pour lui de savoir absolument tout nous reprendre, malheureusement. Pour l'oracle, faudrait que je regarde au niveau de la plateforme, mais normalement, je ne sais même plus si on a toujours les accès. Je regarderai, je me renseignerai et je pense que tu es sur le Discord, donc je reviendrai vers toi. Après, c'est sûr que c'est dommage vu la quantité de travail qui avait été abattue autour du format, que ça soit le texte ou toutes les vidéos. C'est dommage de le laisser un peu perdu. Enfin, si ça avait tenu qu'à moi, et malheureusement, on était quatre et on n'était pas tous d'accord, normal vu la charge de travail qui avait été fournie, c'est quelque chose qu'on aurait dû rendre gratuit, quitte à le laisser tomber, ce qu'on a fait. Donc, on a pris le parti de rembourser tout le monde. Mais c'est vrai que ben, on a tout ce contenu qui, au final, ne profite à personne aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu dommage. Pour les messages en direct, vous pouvez envoyer à cm@thecryptomatrix.fr. Oui, ben, peut-être qu'on essaiera un jour de le remettre en place. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était quelque chose qu'on avait laissé un peu de côté. On n'a pas su ni le vendre, ni peut-être que ce n'était pas le bon endroit, bon moment. Peut-être que la communauté aussi est trop avancée par rapport à ce contenu, je ne sais pas. Mais voilà, ça n'a pas été un grand succès. Donc, on a préféré, au bout de quelques trimestres, laisser tomber. Mais comme tu dis, c'est dommage parce qu'il y a du contenu de qualité derrière. Donc, voilà. EasyNut, je viens de répondre. C'est tout simplement qu'on a eu au pic peut-être 50 abonnés. Et derrière, voilà, on n'avait pas franchement d'acquisition. En fait, il aurait fallu qu'au quotidien, on martèle sur la chaîne, sur les réseaux, etc. J'étais pas du tout dans cette dynamique-là. Donc, finalement, voilà, ça n'était pas dans les attentes de ce qu'on avait. Et ça a été un peu au niveau de l'argent que nous, on avait investi pour monter cette plateforme et tout ce qu'il y avait derrière, un net négatif au niveau des investissements et en temps, et en personne et financier. Donc, on a préféré couper court, hein, tout simplement. Et oui, comme dit Aragorn, après, on faisait des lives, mais c'était des lives où peut-être, des fois, les horaires n'étaient pas adaptés à tout le monde. Et on était au début, voilà, 12, 15, 20. Et ensuite, ça s'est transformé en cours particulier où il y avait une ou deux personnes qui se connectaient au cours DeFi avancé avec Manu et Boka. Donc, voilà, forcément, après. Vu le temps, les coûts engagés, les coûts humains et tout ce qui va bien, on ne peut pas se permettre non plus de faire du one-to-one, quoi, tout simplement. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, que ce soit au niveau de ce qui est en train de se passer sur le marché, au niveau de la chaîne, au niveau de tout, n'hésitez pas. On fait comme ça, je ne sais pas combien de temps ça fait une petite demi-heure, on va faire peut-être encore une vingtaine de minutes. Et je pense que ça sera pas mal pour aujourd'hui, pour ce petit débrief. Je vois que vous n'êtes pas paniqué, donc ça fait plaisir, c'est déjà ça. Et qu'il y a quand même des personnes qui ont pris leur, j'allais dire leur compte, mais c'est plutôt vos wallets en main, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on le voit même au niveau des statistiques sur YouTube, on est plutôt entre anciens, on ne va pas se mentir. On fait quasiment plus d'acquisitions de nouveaux. Et je pense que pour l'immense majorité, même de ceux qui sont là ce soir, eh bien, vous faites partie à minima d'une vague qui se compose de personnes qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 et peut-être pour les plus anciens d'entre vous, bientôt 7 ans. Est-ce que je ferai confiance à un Gemini pour les RWA ? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit Gemini, Coinbase ou Kraken, ça représente quand même des mastodontes. Donc, why not, hein, à voir comment on s'est fagoté derrière. Est-ce que y a des documents ? Est-ce que tu sais exactement ce que tu achètes ? C'est plutôt ça le questionnement qu'on doit avoir. Exactement comme quand on prend un ETF. Est-ce qu'on prend un ETF au pif parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce qu'on vient lire toute la documentation de Amundi, de iShares, tout ce que ça comporte, les frais ? Est-ce que c'est une réplication synthétique ou physique ? Voilà, il y a juste de la recherche quelque part à faire avant d'accorder en effet sa confiance à une plateforme tout simplement. Le Discord reste actif tout à fait, mais on a changé de nom et je pense que le fait de ne pas avoir communiqué en amont dessus, il y en a quelques-uns qui ont été perdus et quelques-unes. Donc le Discord s'appelle FinTales désormais. C'est le nouveau nom qu'on avait déjà sur X. Ça sera le nom que théoriquement on devrait avoir fin décembre, début janvier, même sur YouTube. Donc, le Discord s'appelle FinTales. Et la petite icône, c'est soit si vous avez l'icône ronde, on va dire, il y en a plein qui disent ça, même si on n'était pas du tout parti dans cette idée, comme un petit timbre Marianne au niveau de l'icône ronde. Et l'icône bannière, c'est Lady Fortune qui jette un peu des pièces BTC. Donc, voilà, c'est... Vous pouvez retrouver le Discord qui est toujours le Discord CM, mais qu'on a rebrand tout simplement. Ah, dans les vocaux Discord, en effet, ça remonte. On a aussi Futureman, pareil, qui faisait partie des anciens, des vieux de la vieille. Donc, ça fait plaisir de voir que bah, y a des gens qui sont restés au bout de 7 ans. Ça veut dire que d'un côté aussi, on a réussi à créer une communauté de cœur et c'est ce qu'on voit du côté de YouTube au quotidien. Hein. Qu'on fasse 5000 vues ou qu'on en fasse 10 000, l'immense majorité du temps, ça va être des personnes qui sont là depuis très longtemps. Et on a toujours aussi ce cœur de communauté qui est plutôt au niveau de l'âge, des statistiques autour de 35 ans en moyenne. Donc quand on parle de bon père de famille, bon, à 35 ans, peut-être on est encore un peu trop jeune pour être un bon père de famille, mais... entre 35, 40, 45, 50, petit à petit, voilà, on a envie de se poser, de poser son patrimoine, de poser ses bagages, les enfants, la famille. Et forcément, il y a des préoccupations qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut voir dans d'autres communautés qui ont la vingtaine, 20, 25 et qui sont beaucoup plus volatiles sur les réseaux sociaux. La vision sur le quantique et plus particulièrement l'horizon de temps avant que cela devienne un danger pour BTC, je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus parce que je ne suis pas du tout calé sur un domaine qui est très technique pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas grand monde d'ailleurs qui peut en parler avec réel intérêt mais à la fois connaissance. Et d'un autre côté, on a Vitalik la dernière fois, donc le cofondateur de Ethereum, qui disait qu'on a certains modèles de cryptographie qui pourraient sauter dès 2028. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en sait grand-chose, j'ai envie de dire. Tout comme ce qu'on mesure assez peu, finalement, c'est le développement exponentiel des calculs quantiques liés à l'intelligence artificielle. Est-ce que si un jour l'IA arrive à agencer exactement comme il le faut le calcul quantique qui est purement brut, est un peu désordonné et ne sert pas à grand-chose, entre guillemets, de manière tout à fait efficace, c'est là où, en quelques mois ou quelques années, on risque de casser toutes les cryptographies. Et avant d'avoir des problèmes au niveau nous, de nos BTC, de nos Ethers et de tout ce qui s'ensuit, je suppose qu'il y aura des mises à jour spécifiques à tout ça, ça risque de poser la question de la cryptographie dans le système bancaire, dans le système d'aviation et de tout ce qui aujourd'hui régit le monde des transports, dans le système militaire, dans les satellites. Donc, inutile de vous dire que ça sera un peu la dernière des préoccupations de tout le monde le jour où la cryptographie sera cassée par le quantique. Voilà, on aura quand même de gros, gros problèmes, notamment tout ce qui sécurise aussi tous les missiles nucléaires, etc. On peut voir beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, je m'étais dit, il y a bien quelqu'un qui va me poser la question par rapport au projet de Éric Larchevêque. Alors, on en a pas mal discuté sur le Discord aujourd'hui. Comme je disais, pour ma part, je respecte profondément l'entrepreneur qui l'est. Très certainement la personne, sans le connaître, IRL, qui a l'air tout à fait sympathique et qui, jusqu'à il y a quelques mois, était plutôt modéré, apaisé sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, il a fait monter un peu une moutarde, notamment ces derniers mois. Et on peut peut-être le comprendre vis-à-vis de ce qui s'est passé, notamment avec les enlèvements ou les trucs comme ça. Ça a été quand même une période assez dark, tout ce qui s'est passé. Et derrière, on a eu un discours qui a été beaucoup plus politique, beaucoup plus très à droite et beaucoup plus acerbe. Et aujourd'hui, le projet qui en résulte, tout le monde attendait Éric Larchevêque sur le pan politique de la chose, c'est un projet où finalement, on a trois points, trois piliers, une Bitcoin Treasury Company, une société interne, The Bitcoin Society, où on va essayer à la fois très certainement d'avoir un poids dans le discours public, de faire un petit peu de lobby, d'essayer de ramener des personnes influentes, enfin voilà, on va dire un truc un peu comme ça. Et le troisième point, c'est un club deal. Bon, je suis pas sûr que ça soit un club deal au sens propre du terme, mais c'est un club en tout cas où tu vas devoir payer pour peut-être accéder à quelque chose. Alors, ils n'ont pas encore parlé de deal comme il y avait sur Anthony Bourbon Blast Club ou comme il y avait sur d'autres clubs, mais je pense que c'est ça le troisième point. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, en rachetant cette coquille vide au niveau de l'Euronext, donc c'est Tain, un truc comme ça, je crois, le ticker. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, honnêtement. On voit déjà qu'il y a beaucoup de volatilité et beaucoup de problématiques, même sur les très gros comme MicroStrategy et même sur les plus petits comme AltBG, que vous avez déjà sur éligible au PEA. Aujourd'hui, je me pose quand même la question de quel est le but et la motivation réelle derrière tout ça. Comme j'ai dit, je respecte l'entrepreneur. On ne lui arrive pas à un dixième de la cheville. Je ne suis personne pour juger du bien fondé de la démarche et de la légitimité de Éric Larchevêque, loin de là. Mais d'un autre côté, c'est plus un sentiment, au-delà du fait d'être déçu ou pas déçu, perso, je m'en fous. S'il a envie de lancer son truc, il lance son truc. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que comme d'habitude, il y a des gens qui le soutiennent sur YouTube et ailleurs, et sur Twitter, il est en train de se faire exploser par tout le monde. Si on avait besoin de s'en convaincre, si vous êtes entrepreneur Web3 français, c'est même pas la peine d'y penser du côté de X. Mais toujours est-il, c'est vrai que il y a beaucoup de points qui sont légitimes à être soulevés et je sais pas trop quoi en penser. Aujourd'hui, on a un ardent défenseur du self-custody. Il a monté la maison du Bitcoin. Il a cofondé Ledger. Donc c'est quelqu'un qui est dans le Bitcoin depuis quasiment toujours. Et d'un autre côté, plutôt que de juste dire aux gens prenez une Ledger, allez sur mon site, enfin c'est l'ancien cofondateur, je pense qu'aujourd'hui il n'a plus de rôle, peut-être au board, peut-être au conseil d'administration, mais il n'a plus de rôle opérationnel en tout cas. Et plutôt que de juste dire aux gens ok, achetez ma dernière Ledger de la boîte et mettez-vous tous les mois du Bitcoin comme ça, petit à petit, chose qu'il faisait il y a quelques trimestres. Aujourd'hui, on a un peu plus la sensation que c'est en train de se transformer en un vendeur-influenceur, entre guillemets, qui essaie se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, dans tous les cas, on ne peut que lui souhaiter tout le succès qu'il souhaite, parce que comme d'habitude, je ne ferai jamais partie de ceux qui ni souhaitent du mal aux gens de se ramasser et encore moins aux entrepreneurs justement d'échouer. J'espère pour lui que ça fonctionnera. Mais on a tellement vu de choses se monter comme ça, d'infopreneurs, de dropshippers, d'e-commerce preneurs ces 10 dernières années, qu'aujourd'hui, je pense, tout le monde est au bout du rouleau avec ce genre de format. Donc, personnellement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, justement, des quelques années dans cette industrie du Web3, des Français, machin, bidule, je pense qu'il y a excessivement peu de chances que ça fonctionne. Je suppose aussi qu'il y aura beaucoup de déçus. Et à court terme, tous les gens qui vont venir spéculer sur l'action quand ça va être débloqué là sur l'Euronext, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de casse à ce niveau-là, parce que j'ai vu énormément de gens sur les réseaux sociaux qui juste cherchaient un ticker, qui juste demandaient si c'était éligible au PEA. Et il y a des gens qui vont déployer des sommes mirobolantes juste parce que c'est Eric, juste parce qu'il y a Tony Parker, juste parce que. Et ça, bon, on ne peut pas l'empêcher, hein, je veux dire. C'est exactement ce qui s'est passé par le passé sur tous les projets crypto qui se sont montés. Dès qu'il y avait quelqu'un ou un groupe de personnes ou beaucoup de personnes sur les réseaux qui en parlaient, tout le monde voulait acheter le même truc sans même savoir ce qu'il en retournait. Et c'est souvent par la suite ce qui crée derrière, pas des drames, mais voilà, des gens qui sont vraiment pas contents. Donc aujourd'hui, pour résumer, ben, on lui souhaite le meilleur, bien entendu, à Eric. Je pense en soi qu'il a quand même à la fois les reins solides et l'expérience pour mener à bien le projet qu'il veut, mais aussi il y a beaucoup trop de questions sur les réels fondamentaux qu'il pourrait y avoir derrière et sur les ambitions de véritablement créer quelque chose un petit peu à part. On a la sensation que c'est un énorme papier cadeau bien brillant et tout, et qu'on essaie de lui donner un aspect rutilant, mais qu'à l'intérieur, pour l'instant, et c'est normal, le projet vient tout juste d'être annoncé, c'est pas franchement ce à quoi on s'attendait. Et je pense que c'est ce qui a créé cette dissonance avec beaucoup de gens qui ont été déçus. Bah après, ça, c'est un éternel débat aussi, Tortoito, sur le fait de faire fortune et par la suite de vouloir relancer des business. Je pense que ce qui anime les personnalités comme Eric, c'est d'aller de l'avant et de créer et d'essayer. Ce qui est un petit peu problématique, c'est quand on commence à demander l'argent aux particuliers, notamment dans des club deals. Et je me suis souvent posé la question, hein, ce n'est pas une attaque ou quoi que ce soit, de par exemple les personnes qui sont dans des clubs comme Blast. Est-ce que à ce jour, ceux qui ont investi depuis un an, deux ans, trois ans et qui payent un abonnement assez important, je crois que c'est 10-15% quand tu veux rejoindre le club, donc déjà tu pars avec un handicap, est-ce que ces personnes ont réalisé des gros multiples sur l'argent qu'ils ont mis sur la table? Et c'est toute la seule et unique question qu'il faudrait se poser, est-ce qu'à ce jour, que ça soit Blast ou que ça soit les autres, on a un track record? Et j'ai jamais vu personne nulle part dire « Oula, j'ai fait fortune grâce à ce truc, on a rentré en x500 », enfin voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cet attentisme de se dire « Ok, on nous vend le temps long, on nous vend les startups, on nous dit « Ok, il y en a une sur 100 qui va faire x500 et ça va rattraper tout l'argent que tu as perdu en cours de route ». Mais je pense aussi que ceux qui n'ont pas les moyens, justement, ceux qui sont en bas de l'échelle, qui mettent 1000, 5000, 10 000, 15 000, toutes leurs économies et qui pensent qu'ils vont faire un gros multiple, c'est ceux pour qui ça va le moins se produire, parce qu'ils n'auront pas suffisamment d'argent pour déployer plusieurs fois le ticket consécutivement pour justement voir un jour le x500. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en gros, quelqu'un avec 1 million, il va pouvoir se permettre de mettre 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 plein de fois jusqu'à avoir le fameux x100, x200, x500 qui va rattraper l'intégralité de tous les 10 000 qui étaient allés à zéro tout en lui dégageant un excédent positif. Aujourd'hui, la personne qui arrive sur un club et qui va déployer 5, 10, 15, on va déjà lui prendre 10-15% à l'entrée et il n'y a quasi aucune chance, mis à part coup de chance immense d'avoir investi sur OpenAI ou sur Mistral, de se retrouver avec un x100, x200, x500. Ça revient vraiment à jeter une pièce en l'air je ne sais combien de fois et à estimer, à espérer quelque part de gagner le loto, quoi. C'est pour ça aussi qu'on critique souvent ceux qui ont du fric ou les VC ou des trucs comme ça, mais il ne faut pas oublier que pour un projet où ils vont rentrer un énorme multiple, il y en a parfois des dizaines, des centaines où ils ont tout perdu, hein. C'est le but de ceux qui déploient de l'argent comme ça et qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. On ne va pas dire le contraire. Et je pense qu'au long terme, ils s'y retrouvent, ceux qui sont en réseau autour de tout ça. Mais nous, en tant que particuliers, il y a une période ou deux où on a pu toucher du bout du doigt le monde des VC. C'était en 2017, 2018 et 2020-2021. Alors, je le rappelle, 2017-2018, pour ma part, j'ai investi en 2018 au cours d'Uber et je me suis complètement fait rétamer. Et 2020-2021, on a vu de nouveau beaucoup, beaucoup de projets se lancer. Et là, il y a eu des gros multiples. Mais sinon, là, sur ce cycle-là, ça a été assez catastrophique. Et je pense qu'aujourd'hui, que ça soit pour la crypto, le Web3 ou pour les autres domaines, notamment dans l'IA, on arrive de nouveau un petit peu trop tard par rapport à ce qui s'est fait les années précédentes. Donc, ça reste un risque qui, pour moi, est très important. Et qui fait que aussi, quand on vous propose sur des brokers, sans en nommer certains, du private equity, avec un rendement quasi garanti à tant d'années, je trouve ça un petit peu problématique aussi de mon côté. Je pense que, statistiquement parlant, il y a immensément plus de chances que vous ne revoyez pas votre argent plutôt que vous fassiez un gros multiple. Et oui, tout à fait, ça va être des statistiques qui plaident pas du tout en notre faveur. Il y avait, je sais plus si c'était sur Finari ou un autre podcast, il y avait un gars qui était justement à la tête d'un des plus gros fonds d'investissement en France. Je sais plus si c'était Europe, mais c'était un Français et je crois que le fonds, il était français à la base. Et il avait donné des statistiques la dernière fois. Il disait c'était quelque chose comme 5% qui dépassait le break-even. Tu avais 3% qui dépassait 1 à 10 millions, quelque chose dans ces eaux-là. Donc, on parlait en termes de valorisation. Et tu avais 0,1% qui atteignait le stade de licorne ou quelque chose dans ces eaux-là, donc c'est-à-dire 1 milliard de capitalisation. Donc inutile de te dire que pour atteindre le 0,1%, il te faut en déployer en cours de route du pognon, malheureusement. Et comme dit Tortuato, en plus, le marché private equity n'est pas liquide. Exactement. Donc plus que jamais aujourd'hui, prenez bien le temps de comprendre ce dans quoi vous investissez votre argent. Et si vous avez la flemme ou pas le temps, prenez juste le temps d'étudier quelques documents autour des ETF et vous vous prenez une ligne d'ETF. Si vous vous investissez dans les cryptos, vous vous faites votre petit DCA only BTC. Je rappelle que c'est toujours pas un conseil en investissement, mais c'est ce qui semble être le moins risqué quelque part pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'impliquer plus que ça, mais qui a envie malgré tout d'investir son argent. N'essayez pas d'aller chercher des trucs exotiques. N'essayez pas d'aller chercher des rendements à 2-3 chiffres, etc. Ça ne marchera pas, ça. Ce n'est pas fait pour vous et ce n'est pas fait pour des portefeuilles qui sont des portefeuilles de particuliers avec quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, malheureusement. Les vrais portefeuilles à risque, c'est des portefeuilles qui vont commencer, je ne veux pas dire de bêtises parce que chacun verra midi à sa porte, mais je pense qu'il faut avoir plusieurs centaines de milliers, voire 1, 2, 3, 4, 5 millions pour vraiment commencer à poser des tickets et à peser dans l'industrie du private equity et de tout ce qui est tour de financement. Enfin, c'est des gens qui se auto-recommandent entre eux et qui se connaissent tous. Donc, si vous ne faites pas partie de la table de casino ou de poker où vous avez déjà les plus gros jetons en arrivant à la table, on ne vous laissera tout simplement pas vous asseoir à cette table. Et pourtant, c'est la table qui rapporte. Donc, les seules tables où on laissera les particuliers s'asseoir, malheureusement, dans le private equity, dans les rentes de financement intéressants, etc., ça va être des trucs, des attrape-nigauds, des trucs à la con. Vous arrivez en bout de fil et au final, ce n'est pas intéressant. Et même, on peut le dire pour tout ce qui va être justement les ICO de 2017 et de 2021. C'est vrai que les influenceurs, les créateurs de contenu, il y a eu parfois la possibilité d'investir sur des projets en amont. Et vu que la liquidité était là à cette époque, ben forcément, ça a fait des multiples. Mais quand derrière, on a eu un peu le débrief de ce que se faisaient les VC, de ce que se faisaient les entremetteurs, c'est-à-dire la plupart du temps, entre un créateur de contenu ou d'autres personnes, d'autres groupes, il y a systématiquement des personnes qui vont faire un peu le pont entre le marketing, entre le côté investissement, etc. Et donc, à la fin, c'est des tickets qui sont ridicules par rapport à ce que poussent justement les VC. Les VC, même sur un projet où c'est extrêmement faiblement capitalisé au début, ils vont pousser 1, 2, 3 millions. Alors qu'en bout de fil, un influenceur, un créateur de contenu, on lui proposait 1000, 2000, 5000. Alors, c'est déjà une très belle somme, hein, je ne dis pas le contraire, mais on n'est pas dans le rang de celui qui a les fonds pour pousser 1, 2, 3 millions au départ sur une coquille vide qui représente le risque ultime et sur lequel il va pouvoir falloir se permettre de perdre 1, 2 fois, 10 fois, 50 fois 1, 2, 3 millions. Je veux dire, ça, il n'y a personne qui peut le faire, quoi. Mis à part ces gens-là qui ont beaucoup trop d'argent et qui savent exactement ce qu'ils font. DCA BTC, DCA ETF MSCI Europe, S&P 500, Emerging Oasis. Ben franchement, là, tu as un truc bien diversifié géographiquement. Et bah, chapeau, hein. On pourra toujours polir un petit peu le diamant, bien entendu, notamment peut-être avec Valentin au niveau des répartitions, mais ça me semble plutôt bien engagé pour le coup. Cryptaddict qui dit « Tu écoutes CM en décembre 2020, tu fais all-in sur Ether à 80 et tu pars sous les cocotiers. » Ouais, après, est-ce qu'il y a des gens fondamentalement qui ont totalement make it avec Ether? Je pense que certains, oui. Mais par contre, je sais de sources sûres, parce que c'est des gens qui nous ont envoyé des témoignages par mail ou autre, où il y a eu des polygones matiques ou des trucs comme ça, où des gens ont mis 10 000 et sont partis avec 2 millions. Et ils ont pris justement la petite famille et ils sont partis vivre la pura vida. Donc bah ça, ça fait plaisir pour le coup de se dire que certes, c'est les deux faces d'une pièce. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont perdu de l'argent en regardant le contenu au travers des années ou en investissant peut-être dans des projets qui n'ont pas été porteurs, etc. Ça a été reproché sur les réseaux sociaux. On l'a entendu, on s'est remis en question. Ça fait 3-4 ans que j'essaie de pousser un contenu qui est le plus clean possible depuis le cycle précédent et quasiment plus aucun projet du coup, pour ne pas prendre ce risque-là pour vous. Donc ça a mis du temps, mais c'était le temps de la formation justement de ce premier cycle. Et je n'avais pas été ni créateur de contenu avant, ni financier, ni quoi que ce soit. Donc ça a mis du temps, c'est clair. Mais voilà, c'est un truc où il ne faut pas oublier que dans la finance, il y a toujours cette double face d'une pièce. Et je pense que ça vaut aussi pour notre psychologie. Il y a des moments où on va se prendre réellement au jeu de se dire « Ok, là, je me sens en confiance. C'est exactement l'erreur que j'ai faite, moi, sur ce cycle où j'ai voulu faire de la boucle à gogo sur Ether en déposant des Ether, en déposant d'autres cryptos. Je ne sais plus tout ce que j'avais à un moment. » Et en fait, en 2024, au moment du Hencari Trade, le 5 août, je crois, je me suis retrouvé, déjà j'étais exposé à 100%, ce qui n'était pas du tout bon, et je me suis retrouvé exposé à 150-180%, c'est-à-dire j'étais allé au-delà de mon argent et en plus je m'étais foutu du levier. Derrière, ça a été porteur, puisque inutile de vous dire que quand Ether est revenu à 4000, 4100 et Bitcoin à 100 000, je me voyais déjà tout en haut de l'affiche, et je ne vous raconte pas derrière la descentada de ne pas avoir pris de profit sous levier. J'ai senti passer la piqûre, hein. Je suis revenu 18-24 mois en arrière au niveau du capital. Donc, ça a été une leçon que j'ai mis 6 mois à digérer. Je pense que je ferai les choses beaucoup plus prudemment la prochaine fois. Et d'un côté, ça ne me ressemblait pas du tout de m'exposer autant. Et c'est un retour que je vous fais volontiers pour toujours dire que peu importe comment on prend la chose, en investissement, en crypto, en ETF, en actions, en gold, il y a toujours un prix à payer, que ça soit émotionnel, que ça soit financier, et il y a toujours un moment où on va tilter. Alors, j'estime en soi n'avoir quasiment jamais tilté, mais là, quand j'ai vu la somme que j'ai gagnée virtuellement et la somme que j'ai reperdue, franchement, c'était complètement déraisonnable et ça a été mon échec de ce cycle, et je le partage avec vous pour que vous ne fassiez pas la même erreur. N'essayez pas de vous voir plus grand que ce que vous l'êtes. Le marché nous rappelle systématiquement à l'ordre et c'est quelque chose qui peut faire très très mal, notamment quand on commence à faire un petit peu de levier. Et je précise, hein, c'était du levier très simple du côté de la DeFi, c'était pas des leviers x20, x25, x50, x100 au niveau des futurs. Je ne me suis pas fait liquider. J'ai choisi de couper moi-même ma position. J'ai gardé cette lucidité, finalement, dans les temps durs. Mais c'est des choses qui nous forgent et qui nous démontrent que l'argent qu'on a chié à mettre de côté à la sueur de notre front pour par la suite l'investir sur les marchés doit être considéré avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect, quelque part, pour ne pas en faire tout et n'importe quoi et se retrouver justement comme quand on rentre au casino en sortant la plupart du temps une main devant, une main derrière. Ça ne mène nulle part. Comment je vois Ether dans 2-3 ans? Alors, c'est très difficile à dire parce que sur ce cycle, il n'a pas été porteur. Par contre, et là aussi, ce n'est pas que j'essaie de me convaincre ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, ETH représentera, quoi qu'il arrive à l'avenir, une portion beaucoup moins importante que ce que j'ai eu par le passé en portefeuille. Donc aujourd'hui, j'en suis rendu à un stade où on a vu tellement et on a deux choses et où on a tellement été déçu par certains comportements, que ce soit de marché ou humain, que franchement, investir dans autre chose que Bitcoin pour du long terme. Comme diraient les maximalistes, on met longtemps à le réaliser, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu finis par comprendre à la sueur justement de la perte de ton argent ce qu'il en coûte. Donc aujourd'hui, par contre, j'ai quand même un a priori assez positif pour Ether, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas du tout eu sur ce cycle les conditions sine qua non pour avoir un boost de liquidité et une prise de risque du côté des altcoins. Donc le seul truc qui pourrait vraiment booster Ether dans les 2 à 4 ans qui viennent, c'est d'avoir en effet premièrement le volet fondamental qui se déroule bien. Donc on va avoir l'Ethereum Foundation qui continue de prendre à bras le corps tout ce qui lui a été reproché sur les réseaux sociaux, notamment côté communication, etc. D'avoir Vitalik qui, au lieu de caresser des licornes et de renifler je ne sais pas quoi là, dans des conférences, qui reste concentré et focus, c'est tout ce qu'on veut. Et ensuite, d'un point de vue du marché, peut-être des conditions de liquidité et de prise de risque qui seront un petit peu plus alignées. Ether, aujourd'hui, on l'a vu sur ce cycle, a eu de très beaux inflows quand il y a eu un semblant de rotation et qu'on est venu titiller, flirter au-dessus de son ATH ou tout juste à l'ATH. Je pense qu'un jour, il y aura un FOMO du côté de Ether, tout comme il y a eu du côté de Bitcoin, et qu'on aura ce coup-ci une vraie parabole sur ETH. Ça reste un sentiment personnel, mais qui sera mitigé par le fait que je n'aurai plus jamais l'exposition folle que j'avais à l'époque sur Ether. Donc voilà, j'y crois perso, mais j'y crois modéré, tranquille. Pas besoin de faire un all-in sur ETH, voilà. En fait, pour en avoir discuté, même lors de Twitter Space ou avec pas mal de personnes, le fait de proposer des nouveaux projets suite à une grosse due diligence, etc., dans tous les cas, si ça fonctionne, tout le monde se congratulera, et voilà. Et si ça ne fonctionne pas, ça sera la faute de celui qui en a parlé. Donc, ce qui est reproché dans tous les cas par rapport au fait de parler d'un projet, c'est si on a des intérêts dedans. Est-ce qu'on a eu des tokens moins chers? Est-ce qu'on a pu investir dans le projet? Enfin voilà, c'est principalement ce qui était reproché par rapport à 2020-2021 et c'est tout à fait compréhensible. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait parler de nouveaux projets tout en n'ayant aucun, accord ni avec la team de ne pas avoir de tokens. Mais d'un autre côté, on va nous dire, si tu parles de ce projet, que tu crois dans ce projet, pourquoi tu n'en as pas en portefeuille? Donc, ça représente malgré tout un risque de communication qui est très important et qui plus est, en Europe, avec Mika, avec Psan, avec tout ce qui va bien, la loi influenceur, franchement, aujourd'hui, on ne peut quasiment plus parler de rien. C'est très, très compliqué et il n'y a pas tant de sociétés que ça qui sont totalement dans les clous. Donc, en soi, c'est la réglementation aussi qui a fait que on peut parler de moins en moins de choses, hein, tout simplement. Bon, ça fait une heure ensemble. Je pense qu'on va clôturer sur le message de The Gromeux avec cet espoir au prochain cycle. Si tout le monde joue safe sur Bitcoin, peut-être une belle alt season, histoire de se jouer de nous et je l'espère pour vous, pour nous, d'avoir quelque chose qui sera plus dynamique parce que l'alt season, ce n'est pas tellement de l'attendre en tant que tel. Les gens l'attendent pour faire un multiple, pour devenir riche, entre guillemets, pour améliorer le quotidien, pour que ça démultiplie un peu le capital. C'est tout à fait louable et c'est tout à fait compréhensible. Mais de notre côté, qu'apporte réellement une alt season? Elle apporte énormément de liquidité et de traction et d'attention à cet instant sur le marché crypto. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on n'a pas connu sur ce cycle. On avait l'impression que ce cycle était un cycle mort. Il n'y a eu que Bitcoin, il n'y a eu que les ETF autour de BTC qui ont bien marché. Alors un petit peu tardivement du côté d'Ether, mais ça a été anecdotique. Et derrière, les alts, malheureusement, ça fait un an et quelques qui sont en bear market quasiment depuis décembre 2024. Allez, peut-être janvier 2025. Donc aujourd'hui, bien entendu, qu'on ne peut que souhaiter avoir un jour une alt season, pas que pour le côté purement spéculatif, mais pour le côté de ce que ça apporte en termes de visibilité, en termes d'attractivité, en termes de nouveaux arrivants. On a absolument besoin de ça si on veut avoir un marché crypto qui prend des milliers de milliards supplémentaires, tout simplement. Bitcoin peut y arriver tout seul au travers du temps, et encore, ça, c'est pas sûr. Voilà. On ne sait pas si Bitcoin, dans 5 ou 10 ans, sera beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'il l'est maintenant ou s'il se sera mis à stagner. Ça reste un pari sur l'avenir. Mais tout ce qu'on a pu constater au cours de ces dernières années, c'est que chaque alt-season a permis de franchir d'énormes milestones, d'énormes paliers. Et même on peut se poser la question rétrospectivement, est-ce que Bitcoin en serait là où il en est aujourd'hui si on n'avait pas eu les alt-seasons? Et je pense que ça nous fait un excellent mot de la fin. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse le replay activé. Merci à tous d'être là au quotidien. Merci pour vos messages, pour vos encouragements du côté de YouTube et ailleurs. C'est apprécié et on continuera tout ça ensemble. Je pense qu'on est là encore pour quelques années. Quand bien même à la fin, on sera peut-être beaucoup moins que ce qu'on l'a été justement par le passé. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous avoir avec nous et de continuer cette aventure ensemble qui, justement, début 2026, aura trouvé son début il y a 7 ans. Ça va très, très vite. Ce qui fait que à la quasi-fin de ce prochain cycle, en 2029, ça fera 10 ans. 10 ans dans le marché crypto, c'est comme presque toute une vie dans la vie réelle. Très bonne soirée et je vous dis à plus. Ciao, ciao.